Bon début d'après-midi à tous et bienvenue au Stade Saputo pour le meilleur show en ville, le soccer de l'Impact de Montréal. Mon nom c'est Jérémy Filosa et aujourd'hui l'Impact de Montréal reçoit la visite du LAFC. À l'analyse pour le match d'aujourd'hui, Arcadio Marcuzzi. Salut Arcadio!
Salut Philo, bonjour tout le monde!
Hey, ça fait du bien de se retrouver au Stade Saputo, ça fait du bien de retrouver le soleil ici au Québec. Nous, on en a eu quand même la semaine dernière au New Jersey, mais d'en avoir ici à Montréal et une belle journée, à peu près 10 degrés, ça fait drôlement du bien et... Là, on revient dans le stade Saputo, le stade dans lequel on va jouer pendant toute la saison. Et pour certains, ben, c'est un endroit confortable, connu. Mais pour plusieurs, c'est une première. Rémi Garde, en partant, son staff technique, plusieurs joueurs aussi qui n'ont jamais joué ici. Mais je pense que pour la majorité des joueurs, simplement de retrouver le soleil, l'extérieur et le gazon à domicile, ça va faire du bien.
Ah, ça va faire le plus grand bien, c'est certain. Et en plus, comme tu le mentionnes, là, pour au niveau de découverte pour le staff technique, pour beaucoup de joueurs de l'effectif montréalais, mais de découvrir d'un leur terrain, de deux, d'être près de leurs partisans, parce que le seul match qu'il y a eu à Montréal cette saison, ça a été au Stade Olympique, une belle victoire contre Toronto. Mais ici, la proximité qu'on a avec les gens, la chaleur du public montréalais, ils vont la sentir vraiment pour la première fois aujourd'hui. Et ça risque de faire le plus grand bien pour surtout à ceux qui débarquent à Montréal et qui se demandent encore un petit peu de quoi est fait la fibre soccer montréalaise. Bien, aujourd'hui, je pense qu'ils vont avoir une belle réponse avec une belle foule qui est attendue ici. Et cet esprit printanier là, qui règne sur le Stade Saputo aujourd'hui.
Ouais, ben écoute, disons que ça tombe vraiment bien. Hein, parce que je te dirais, Arcadio, qu'aujourd'hui, c'est peut-être la première vraie journée de printemps. C'est vrai que le printemps est commencé depuis exactement un mois, mais le premier mois, on l'a un peu scrappé, disons. Alors, ça tombe tellement bien que le Stade Saputo ouvre ses portes aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée. Parlons un petit peu de l'alignement partant. Nous venons de l'obtenir. Et bon, ça va ressembler à ce qu'on a vu dans les dernières semaines. C'est toujours ce fameux 5-3-2. Par contre, on retrouve Saphir Taider en milieu de terrain. Donc, il prend la place de Ken Krolicki. Pour le reste, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu à la fin du match contre les Red Bulls. C'est-à-dire Evan Bush devant le filet, les cinq défenseurs de gauche à droite, Daniel Lovitz, Yuka Raitala, Rudy Camacho, Victor Cabrera et Chris Duval à droite. Samuel Piette en plein centre. Devant lui, Saphir Taider à gauche, Alejandro Silva à droite et en avant, Nacho Piatti et Jason Vargas. Quels sont tes premiers commentaires sur cet alignement?
Ben écoute, de retrouver Taider et Piatti sur le 11 partant, ça va faire le plus grand bien.
Oui.
Non seulement pour Rémi Garde, mais je pense pour les partisans de voir les deux joueurs désignés commencer le match, de les retrouver. Par la suite, de voir Silva aussi impliqué dans ce milieu de terrain avec Piet et Taider, je pense que ça va être très intéressant à suivre. Je pense que le fait que Taider soit sur le terrain va aider grandement la prestation d'Alejandro Silva, va lui donner plus d'espace, plus de temps sur le ballon lorsqu'il l'aura. Je pense que ça va être très intéressant à suivre avec Piatti et Vargas, évidemment, qui, bon, ne sont pas à leur position idéale devant, mais en même temps, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de causer des difficultés à l'adversaire. Donc, je pense que la présence de Taider va un peu dynamiser tout ça devant, surtout dans la transition défense-attaque, chose qui a cruellement manqué à l'Impact au cours des dernières semaines.
Oui, je pense que le retour de Taider au milieu de terrain, ça ne peut pas faire autrement qu'aider. En termes de talent, c'est le milieu de terrain le plus talentueux de l'Impact de Montréal. Je sais que je me répète un peu, mais ce gars-là, j'ai vu des choses absolument extraordinaires de sa part durant le camp d'entraînement. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a eu des matchs contre des clubs de la USL là-dedans. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'éventuellement, lorsqu'il va... Je pense que Rémi Garde avait raison cette semaine quand il a dit, le gars, il revenait d'un championnat italien, il avait beaucoup joué. Là, ça fait deux semaines qu'il se repose, OK? Ouais. Et donc, ça va lui faire du bien. Moi, je pense qu'on va avoir un grand match de la part de Saphir Taider aujourd'hui. Et ça te prend tes deux meilleurs joueurs dans l'alignement si tu veux avoir une chance de gagner dans cette ligue-là. Donc, moi, je pense qu'ils vont connecter encore une fois aujourd'hui.
Ah, absolument. Je suis 100% d'accord avec toi. D'une question de timing, c'est peut-être aussi un mal pour un bien, le fait que Taider ait raté presque deux matchs complets là, suite à ce carton rouge reçu en Nouvelle-Angleterre. Et aussi le fait que Taider, évidemment... a pu se reposer un peu physique et mentalement. On sait qu'il avait voyagé pour se joindre à l'équipe nationale algérienne. Oui. Il y a eu un peu un conflit avec le sélectionneur Madjer. Donc, je pense que lui, ça lui a fait du bien un peu de prendre ce repos-là. Il revient avec une fraîcheur physique et mentale et le couteau entre les dents parce que oui. Lui, il a vu ses coéquipiers avoir beaucoup de difficultés alors que lui était sur la touche. Je pense que ça n'a fait que le motiver. C'est un gars d'équipe, Taider. Il va démontrer tout ça aujourd'hui ici au Stade Saputo face au LAFC.
En même temps, ça nous démontre, Arcadio, que t'sais, on a quand même un certain manque de profondeur au niveau talent au milieu de terrain. Parce que Samuel Piette, c'est un bûcheron. Il se bat pour des ballons. Il va les récupérer. Il gagne des duels. Il fait une bonne première passe, mais ça s'arrête à peu près là. Alors que Saphir ne bataillera peut-être pas de la même façon que va le faire Samuel, mais il est capable d'éliminer des joueurs devant lui. Il est capable de retrouver dans des espaces dangereux Piatti, Vargas. Donc, tu sais, je pense que idéalement, ça prendrait un autre joueur, je dirais pas de son talent, mais qui peut en ajouter autant, en espérant qu'Alejandro Silva, peut-être aujourd'hui, puisse nous démontrer quelque chose à ce niveau-là.
Ben, c'est sûr. C'est sûr que, écoute, le manque de profondeur chez l'Impact, c'est une réalité dont on est très conscient. Même le club, là, je pense que, tu sais, du côté du club, on le sait, Rémi Garde le sait. C'est pas pour rien que parfois, moi, je pense que même qu'il passe des petits messages à gauche et à droite à Joey Saputo et à l'état-major de l'Impact. Lorsque, lors du premier match, il ne met aucun changement, moi, selon moi, c'est envoyer un message à l'état-major de dire, écoutez, ouais, les gars, j'ai pas les armes nécessaires pour me battre à armes égales avec les meilleures équipes de la MLS. Et je pense qu'on le sait. On a été pris de court avec une entre-saison qui... Bon, on était en transition avec un nouveau staff technique. Rémi Garde, il fallait qu'il trouve justement ses alliés pour le staff, ainsi de suite. Donc, au niveau du recrutement, on n'a pas pu mettre la main sur tous les joueurs qu'on aurait espéré. Mais on a encore le temps. La fenêtre internationale, la première, se ferme le 1er mai. Et par la suite, ça se rouvre à la mi-juin. Donc, l'Impact a encore le temps de faire du shopping, d'aller compléter ce staff qui est, oui, très léger, il faut le dire. Mais entre-temps, il faut garder la tête hors de l'eau. Il faut essayer de jouer au moins pour 500, rester là dans la course aux séries. Sinon, la deuxième moitié de campagne risque d'être compliquée d'avance. Là.
Mais écoute, je ne pense pas qu'il y a suffisamment de raisons pour que l'Impact ne soit pas compétitif. C'est pas un club parfait. C'est peut-être pas un club de championnat au moment où on se parle. Mais il n'y a pas de raison que cette équipe-là ne soit pas capable d'être compétitive semaine après semaine. Maintenant, moi, ce qui m'encourage, c'est que, mis à part les deux derniers matchs, on a été dans le coup pratiquement à chaque fois. Donc, avec les meilleurs éléments, on verra ce que ça va donner. Je vais être bien franc avec toi. J'aurais aimé voir une formation qui aurait permis à Matteo Mancosu de revenir dans le 11 partant. Je pense que c'est un gars qui peut contribuer offensivement. Présentement, Jason Vargas a 3 buts. Piatti en a un seul. C'est très mince. Là. On n'a pas marqué beaucoup de buts du côté de l'Impact. Je crois que c'est 6 buts en 6 matchs.
6 buts marqués.
C'est très, très peu comparativement au LAFC, par exemple, ce soir, qui en a marqué 11 en 5 matchs. Ils ont marqué pratiquement le double des buts de l'Impact avec un match en moins. Donc, je pense que Mancosu peut donner un coup de main à ce niveau-là. Aujourd'hui, Dominic Oduro n'est pas dans la formation, soit dit en passant. On a décidé de le laisser de côté. Souviens-toi que la semaine dernière, c'est Raheem Edwards qu'on avait laissé de côté.
Ouais.
Cette semaine, c'est Dominic Oduro. Je ne sais pas si il y a un lien entre l'entrevue que m'a donnée son agent en milieu de semaine où il répétait que Dominic trouvait le temps long et qu'il attendait avec impatience cette transaction, ce transfert. Donc aujourd'hui, pour la première fois de la saison, il ne sera pas habillé. Et Raheem Edwards va prendre sa place dans l'alignement. Écoute, on a parlé de la profondeur tout à l'heure, Arcadio. Ça commence à avoir un petit peu plus d'allure quand même. Si on regarde ça sur le banc aujourd'hui, on a le gardien substitut Clément Diop. Michael Petrasso qui
revient
moi,
de blessure. Voilà.
Exact. Et pour moi, est un gars, au moment où on se parle dans son développement, ça demeure un gars de soutien.
Ouais.
Louis Bélan-Goyette, un jeune joueur qu'on tente de former. Il y a encore Ken Krolicki. Raheem Edwards, qui pour moi est un joueur utile. Anthony Jackson-Amel et Matteo Mancosu, qui ne sont pas de mauvais joueurs. C'est pas parfait. Mais il y a quelques options.
C'est
là.
Déjà mieux que la semaine dernière. Et à mesure que des éléments reviendront de blessure et que, comme tu dis, là, on pourrait transiger, par exemple, un gars comme Oduro, peut-être obtenir quelqu'un en retour, ainsi de suite, c'est sûr que ça va prendre forme. C'est loin d'être catastrophique, mais on voit que l'Impact de Montréal, pour se battre à armes égales avec les grosses pointures de la division Ouest, oui. Ben, il leur manque au moins deux morceaux importants pour de semaine en semaine, parce que c'est pas tous les jours, de match que tous tes joueurs vont être au même niveau. C'est pas à tous les jours de match que tous tes joueurs vont être en santé. C'est là que la profondeur entre en ligne de compte. Oui. Et là, l'Impact de Montréal, non seulement manque de profondeur, mais manque de qualité à certains postes clés. Et c'est là que le marché des transactions et des transferts devra entrer en ligne de compte plus tôt que tard si on veut espérer retrouver le chemin des séries éliminatoires dès 2018.
Et j'ai hâte de voir de quoi va avoir l'air Rudy Camacho en plein centre de cette défensive à 5. Ça a été difficile la semaine dernière. On va faire une petite pause, Arcadio, et au retour, on va parler de Laurent Simon qui effectue un retour à Montréal. Marc Dos Santos, peut-être aussi un petit mot. Et bien sûr, ces informations que tu as obtenues concernant la possibilité de voir Fernando Torres s'amener avec l'Impact de Montréal. Tout cela et bien plus en direct du stade de Saputo au 98.5. Vous écoutez l'avant-match du soccer de l'Impact de Montréal. De retour au stade de Saputo pour l'émission d'avant-match du soccer de l'Impact de Montréal en compagnie d'Arcadio Marcuzzi, Jérémy Filosa avec vous. Et on est là jusqu'à 17h ce soir pour parler soccer. Arcadio, tu as eu une information privilégiée cette semaine à l'effet que l'Impact tentait de convaincre Fernando Torres, la grande star du soccer espagnol, à venir poursuivre sa carrière avec l'Impact de Montréal à 34 ans. Lorsque j'ai vu les informations que tu avais partagées, j'ai fait des coups de téléphone. On m'a confirmé que Nick Dos Santos avait bel et bien quitté pour l'Espagne vendredi de la semaine dernière et qu'il est revenu hier, en fait. Donc, il a passé une semaine complète en Espagne, à Séville, à Barcelone. Donc, ça semble du concret. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Ben, écoute... Depuis environ deux semaines, on commence à parler de la possibilité de voir Fernando Torres débarquer en MLS. On sait oui. que la Chine le courtisait. Le joueur ne semble pas intéressé à aller jouer, poursuivre sa carrière du côté de la Ligue chinoise, la Super Ligue chinoise. La MLS l'intéresserait énormément. C'est le Chicago Fire qui a les droits de découverte du joueur.
Oui.
Mais bon, on sait comment ça fonctionne. Hein. Dans le cas de Didier Drogba, c'était le même Fire qui avait les droits de découverte de Didier Drogba.
Oui.
Et l'Impact a quand même réussi là, à mettre la main dessus. Donc, voilà, l'Impact, selon ce que j'ai appris, voilà, d'une source très bien connectée dans le milieu du soccer espagnol et européen, l'Impact de Montréal est dans la course pour obtenir les services de Fernando Torres avec d'autres clubs MLS. Je n'ai pas cette information-là, mais selon ce que j'ai lu, les Sounders de Seattle, le Fire de Chicago sont intéressés et l'Impact de Montréal est dans la conversation. Donc, ça, on pourrait peut-être voir un gars de la trempe de Fernando Torres débarquer à Montréal, ce qui ferait, ben écoute, le plus grand sens. On le disait, là, l'Impact de Montréal n'a que 6 buts cette saison en 6 matchs. C'est très peu, trop peu. On manque de poids devant. Matteo Mancosu a été blessé, n'a oui. pas été l'ombre de lui-même l'an dernier. Anthony Jackson-Hamel, malheureusement, c'est toujours en montagne russe, ne semble pas pouvoir s'imposer de manière régulière. Alors, l'Impact de Montréal n'a pas le choix là, que d'aller mettre du poids devant, là, mettre de la qualité devant. Et aussi, un nom comme Fernando Torres, ben, ça ferait pas de tort, disons, oui. niveau du marketing, au niveau du hype qu'on doit générer pour remplir les estrades ici au Stade Saputo. Donc, ce serait d'une pierre deux coups pour l'Impact de Montréal qui bon, écoute, on l'a vu quand j'ai sorti les informations que j'ai obtenues tout de suite là, sur les réseaux sociaux, on a vu les gens s'enthousiasmer
oui.
de la possibilité de voir un gars de cette trempe débarquer à Montréal et ça donne une idée de qu'est-ce que ça pourrait faire ici au Stade Saputo si jamais ça venait à se concrétiser.
Bien, c'est sûr. Écoute, les gens, on le sait, hein, on aime les joueurs étoiles. Même à 34 ans, les gens disent « Oui, mais il a ralenti en Espagne dans les dernières années. » Mais écoute, on ne peut pas comparer les défenseurs de la Liga aux défenseurs de la MLS où probablement qu'il sera encore capable de produire avec efficacité, j'ai l'impression.
Clairement. Surtout si on le greffe à un effectif où on a déjà un gars comme Nacho Piatti, Safir Taider, Alejandro Silva. Je pense que dans cette identité que l'Impact est en train de se forger, un élément comme Torres cadrerait parfaitement. C'est certain qu'il n'est pas le joueur de ses beaux jours à Liverpool, El Niño Torres. Mais ici, à Montréal, il pourrait avoir un impact immédiat là, avec le 11 montréalais, dans la MLS au complet. Le seul point d'interrogation, le seul risque, c'est que c'est un gars qui a souvent été blessé, qui n'est pas au top physiquement depuis quelques années. Ça pourrait se répercuter en MLS. On sait qu'il est une ligue reconnue pour l'aspect physique, avec de longs voyages. repêchage. Ça, ça serait un risque, c'est certain. Mais si j'étais dans la position d'aller le signer pour un prix raisonnable, c'est un risque que je n'hésiterais pas à prendre si j'étais l'état-major de l'Impact de Montréal.
Écoute, moi, ce que j'aime, c'est que on déplace un homme là-bas pendant une semaine pour aller rencontrer l'individu en personne et essayer de vendre le projet de l'Impact de Montréal. Est-ce que ça va fonctionner? On le sait pas. Mais moi, ça, en tant que Montréalais, fan de soccer, je peux pas faire autrement que d'être heureux que d'entendre ce type de nouvelles-là. Maintenant, si jamais ça ne devait pas fonctionner, ça veut quand même dire que l'Impact a des aspirations d'ajouter un troisième joueur désigné. Et si c'est pas Thorez, peut-être que ce sera un autre joueur. On verra bien. Mais ça me démontre une volonté, encore une fois, de monter cette barre, monter cette coche et de écoutez, ce que Thorez pourrait amener en termes d'expérience, l'aide qu'il pourrait amener aux jeunes joueurs de cette équipe-là, l'envergure. Écoute, vous avez entendu combien de joueurs sont venus ici? Ils nous ont dit « Oui, ben j'ai vu Didier Drogba jouer ici, ça m'intéressait. » Et ça va être la même chose pour Thorez. Donc, on verra où est-ce que ça va amener. Est-ce que tu pourrais simplement expliquer, parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé sur les médias sociaux, cette liste de découvertes?
Oui.
Comment ça fonctionne et pourquoi on garde ce type de fonctionnement dans la MLS? Pourquoi ne pas tout simplement laisser à chaque équipe le droit de négocier avec le joueur de son choix?
Oui, c'est pour éviter un peu la spéculation entre clubs. Là, on se donne une liste où les joueurs de haut niveau, chaque club peut mettre un joueur sur sa liste, dire « Bon, ce joueur-là, si jamais il est intéressé à venir à MLS, nous, on a la priorité. » Le mot « découverte » est très malheureux là, parce qu'il devrait changer de nom parce que ça fait pas très sérieux un club qui découvre un gars qui a gagné la Coupe du Monde ou un Didier Drogba, ainsi de suite. Mais au-delà de ce détail, je pense que c'est un mécanisme qui commence à être évolu là, dans l'ère MLS actuelle. Et je pense que éventuellement, on s'en débarrassera, ça c'est certain. Ça reste en place et par exemple, lorsque l'Impact de Montréal voulait signer Didier Drogba, ils ont acheté, dans le fond, ils ont déboursé, je crois que c'était 50 000 $ au Fire de Chicago pour avoir les droits lorsque le joueur a décidé de venir à Montréal et non à Chicago. Donc, écoute, c'est des technicalités. Ça fait partie des mécanismes qui font de la MLS une ligue assez particulière. Mais je pense, comme je te disais, là, que éventuellement on pourra s'en débarrasser pour un peu se mettre au même niveau que toutes les autres ligues du monde et faciliter un peu ce type de choses-là.
Oui. Bon, OK. Assez parlé de Fernando Thorez. On va se croiser les doigts et on va continuer de suivre ce dossier-là pour vous au cours des prochaines semaines. C'est le retour de deux membres, deux anciens de l'Impact. Commençons avec Marc Dos Santos, à qui, malheureusement, on n'a pas eu la chance de parler depuis son arrivée. On ne sait pas trop pourquoi, mais Marc Dos Santos est parti de loin. Il a gagné un championnat avec l'Impact. Il est allé ensuite à Ottawa. Il s'est promené au Brésil, au Portugal aussi. Ensuite de ça, à San Francisco l'année dernière, il a gagné le championnat de la NASL avec son équipe. Et là, il se retrouve avec le LAFC. Et il se retrouve au poste d'assistant entraîneur avec cette équipe-là. Et connaissant Marc Dos Santos, je pense qu'on peut facilement se dire que d'ici quelques années, fort probablement qu'il y a une équipe de la MLS qui va lui offrir le poste d'entraîneur-chef. Il a tout gagné partout. Voilà. C'est un gars d'ici. Et je ne sais pas si on va souligner sa présence. Ce serait le fun parce qu'il a quand même gagné un championnat ici. L'Impact n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. On verra bien, mais... Un petit mot sur le retour de Marc Dos Santos.
Écoute, ça fait plaisir. C'est un peu l'enfant prodigue du soccer montréalais, Marc Dos Santos, qui a mené l'Impact à son dernier titre de Ligue. Et évidemment, est très apprécié de tout le monde ici, du milieu du soccer montréalais. C'est un peu le meilleur esprit de soccer là, qu'on a au Québec. C'est, c'est Marc Dos Santos, un des meilleurs au Canada. Et je crois qu'il a le potentiel pour devenir un grand coach en MLS, comme tu l'as mentionné, ou dans n'importe quelle autre ligue. Là. C'est un gars qui est brillant. C'est un gars qui a été amené au LAFC par Bob Bradley, qui s'est renseigné un peu qu'est-ce qu'il fait, Marc Dos Santos. Marc Dos Santos avait une offre millionnaire sur la table pour rester plusieurs années au Miami FC. Et il ne l'a pas accepté. Il n'a pas pris cette option-là. Il a décidé de venir du côté du LAFC. Lui, son objectif à court terme, c'est d'être coach à MLS. Bob Bradley en est très conscient, mais il voulait avoir un esprit comme Mark Dos Santos auprès de lui pour commencer ce projet qui est le LAFC. Et lorsqu'on voit le LAFC aujourd'hui, la formation à 3-4-3, par exemple, qu'ils emploient, qui est très offensive, qui est très... qui donne une personnalité à ce club-là, mais on voit beaucoup de Mark Dos Santos là-dedans. Et c'est ce qu'on aime de ce gars-là, c'est que sa mentalité, son identité soccer, elle est très claire. Et regarde, on la voit déjà, même s'il est assistant entraîneur, on la voit déjà dans ce LAFC.
Bon, parlons un petit peu de Laurent Simon qu'on va entendre dans quelques instants. J'étais là hier à l'entraînement du LAFC et Laurent Simon a été lui-même, c'est-à-dire... très heureux d'être de retour à Montréal, premièrement. Très heureux d'être de retour au Québec, de retrouver les partisans de soccer. Il en a croisé plusieurs qui lui ont partagé les bons mots. Mais en même temps, on pouvait sentir en lui, dans son commentaire, que bon, il y avait toujours cette crotte sur le cœur par rapport à cette transaction. Je pense qu'il est un peu passé par-dessus, mais en même temps, pas encore à 100%. Est-ce qu'il est trop tôt pour... conclure sur cette transaction qui a amené Raheem Edwards et Yuka Raitala à Montréal? Est-ce que ça aura été une bonne décision de l'Impact de Montréal?
Ben, en fait, pour juger de la qualité de la transaction, oui, je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt. C'est certain que qualité pour qualité, Laurent Simon reste largement au-dessus de Edwards et Raitala. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au soccer, ben, si peut-être on n'avait pas échangé Simon, ben, on l'aurait peut-être perdu au mois de juin pour absolument rien. Et il ouais. Faut pas oublier non plus que Laurent Simon, l'année dernière, ben, lui, il avait, disons, insinué à plusieurs reprises qu'il pouvait quitter Montréal et s'en aller dans un autre club, même en MLS. Donc, je pense que l'Impact de Montréal s'est protégé là-dedans et a agi dans le meilleur de ses intérêts à court terme. Par la suite, au niveau émotionnel de cet échange, je pense qu'il ne sera jamais trop tard ou trop tôt pour arrêter d'en parler. Je pense que les gens sont très impliqués émotionnellement. Ça me fait penser un petit peu à l'échange de Piqué-Souban avec Shea Weber. Ça fait déjà quelques années et ça reste encore une plaie qui est béante là, chez l'amateur de hockey montréalais. Donc, je pense que du côté de Simon, on était très investis émotionnellement avec ce joueur-là. Humainement, c'est un cas d'exception dans le monde du soccer. Laurent Simon, il a marqué les esprits ici. Donc, ça, on risque de continuer d'en parler pour pendant quelques saisons encore.
On va faire une petite pause. Au retour de cette pause, on va entendre les commentaires de Laurent Simon. On aura aussi le vice-président de l'Impact de Montréal, Richard Legendre, en entrevue. Vous écoutez l'émission d'avant-match du soccer de l'Impact. Merci d'être là en notre compagnie. Nous voilà de retour au stade de Saputo. Sans plus tarder, voici les commentaires de l'ancien défenseur de l'Impact de Montréal, Laurent Simon.
Ça fait quoi, Laurent, de remettre les pieds au centre du Trilès, Nathan?
Bah, ça fait chaud au cœur, hein, c'est certain. J'ai passé 3 ans ici, 3 bonnes années. Voilà, sur le plan personnel, fantastique. Sur le plan professionnel, bah, il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que ça fait partie du soccer. Donc voilà, je suis très content d'être ici et moi, très ému.
Anticipais-tu ce match-là? Il était-tu encerclé sur ton calendrier?
Non, comme je l'ai dit, c'est pas un match en particulier. Je pense que je dois laisser mes émotions là où elles sont et être professionnel sur le terrain. Voilà, c'est un match contre une équipe qui est très forte. Oui, c'est sûr qu'ils ont perdu pas mal de matchs, mais ils ont joué à l'extérieur. Je connais les individualités, je connais les nouveaux joueurs. Donc voilà, pour moi, Montréal est une bonne équipe, une équipe qu'il faut prendre au sérieux.
Mais t'es un gars quand même assez compétitif. J'imagine que tu dois quand même avoir un peu envie d'en découdre et peut-être aussi de passer un message à la direction par le même fait, non?
Comme je t'ai dit, je pense qu'il y a eu assez de trucs autour de tout ça. Il y a eu des insultes autour de ma personne, de ma vie privée. Donc je préfère ne plus en parler, je préfère mettre ça de côté. Voilà, c'est sûr que c'est un match qui va être pour moi émotif, c'est certain. Je suis content de vous voir aussi, ça me fait plaisir et... je serais content de voir, comme j'ai dit, les supporters et certaines personnes, tout simplement. On va leur mettre les émotions au vestiaire et être compétitif. Sur le terrain, je le serai. Je ne ferai pas de cadeaux, que ce soit à des joueurs avec qui je m'entendais bien ou d'autres. Voilà, je vais être content de voir les gens et après, je vais essayer de prendre du plaisir sur le terrain comme je fais à chaque match.
Si tu devais marquer, est-ce que tu célèbres?
Ouais, je célébrerai, mais sobrement. Juste par respect pour les supporters.
À quel genre d'accueil tu t'attends d'avoir des supporters au Stade Saputo?
Comme je l'ai dit, il y a des supporters avec qui je m'entendais bien. Il y a des supporters qui étaient là et qui étaient contents que je sois là. D'autres que je comprends qui n'étaient pas contents que je sois là. Donc voilà, il y a des Laurent Simon, il y a des anti-Laurent Simon comme partout. Il y en a qui seront contents de me voir, d'autres pas, mais ça fait partie du métier.
Mais je présume que tu penses à ton vol de retour avec une victoire, tu le prendrais avec le sourire, je présume.
Ben, je t'ai dit, on joue chaque match pour le gagner. On a une bonne équipe, mais je m'attends à un match compliqué. Il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe. Ils ont l'un des meilleurs attaquants de la Ligue. Ils se sont bien renforcés. Je connais tous les joueurs. Donc, Donc voilà, même ceux qui sont arrivés ont des qualités. Quand je vois le coup Franck Vargas a mis la semaine dernière, je vois Silva qui est arrivé. Diallo, le pauvre, il n'a pas su prouver ce qu'il valait, mais je pense que c'est un bon joueur. Ils ont ramené Fanny qui est un joueur de classe internationale. Donc voilà, Victor qui est derrière. Voilà, comme je l'ai dit, Lovitz et Duval, ce sont des soldats, Piet aussi. Ils ont une équipe solide et on a une bonne équipe aussi, donc ça va être un bon match et j'espère qu'il y aura du spectacle.
Lorsqu'un grand joueur revient dans sa ville, prenons dans d'autres sports comme à Montréal chez le Canadien, puis qui souvent est revenu à Montréal, il a eu droit à une vidéo au tableau indicateur. Est-ce que tu t'attends à quelque chose du genre de la part de l'Impact?
Je sais pas, je m'attends à rien vis-à-vis de ça. Déjà, je te remercie pour le compliment et comme j'ai dit, le plus important pour moi, c'est l'ambiance que j'avais et je dirais la relation que j'avais avec les supporters. Avec les joueurs, je pense que je suis quelqu'un d'honnête. J'ai toujours dit les choses en face, que ce soit aux fans, que ce soit aux gens de la direction, que ce soit aux joueurs, même aux journalistes. Donc voilà, j'ai rien à me reprocher. J'ai la tête tranquille. Je sais ce que j'ai fait de bien, je sais ce que j'ai moins fait de bien. Après voilà, je suis un homme, j'ai mes défauts. J'essaie d'avancer avec ça.
Laurent, si tu as croisé des partisans depuis ton arrivée à Montréal, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça a été quoi leur message?
Je l'ai dit, la plupart des fans, j'avais une bonne relation avec eux. Je vais les remercier parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire.
Laurent, depuis plusieurs années, on répète que Nacho Piatti est l'un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue. Pour la première fois, tu vas avoir la chance de jouer contre lui. Est-ce que tu penses que tu connais certains de ses trucs? As-tu un avantage?
Je l'ai dit, Nacho, pour moi, est un des meilleurs attaquants de la Ligue. Et si je devais en choisir un dans mon équipe, je le prendrais avec moi. Pas seulement pour les qualités qu'on lui connaît sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est vraiment une grande personne. Après, c'est sûr, tu le connais, mais Nacho est toujours imprévisible. Donc voilà, ça va être difficile de le cerner, mais on va devoir le cerner en équipe, pas juste en un contre un, parce qu'on sait très bien que c'est impossible de le tenir en un contre un. Mais comme je t'ai dit, il y a plusieurs aussi éléments qui sont arrivés, qui sont très bons techniquement. Donc voilà, on s'attend à un match difficile et on va être prêt pour batailler.
Sur le plan sportif, Ça se passe bien les choses. On n'a pas toujours l'impression que vous êtes une équipe d'expansion quand on regarde.
Non, mais on a un staff écoute de qualité. Marc Dos Santos est parti au Brésil. Tu sens quand il te parle de football que ça vient de loin. Il sait comment joue, il sait comment j'aime jouer et il apprécie. Donc ça aussi, ça fait beaucoup dans la transaction. Ça fait plaisir de se sentir apprécié et à sa juste valeur. Écoute, là, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ça va sûrement être mon dernier grand tournoi. Donc pour y aller là-bas, je dois faire des bonnes prestations avec mon équipe. On a bien commencé, après on a eu quand même deux belles claques, donc on a dû se relever et apprendre de nos erreurs. Mais on se sent bien, on est bien, on a une bonne équipe, on s'entend tous bien. Donc on a un bon état d'esprit et voilà, demain il va falloir faire le même genre de match qu'on a fait à Vancouver, être des guerriers et profiter des espaces que l'Impact va nous laisser.
Nous voilà de retour au stade Saputo. C'était les commentaires de l'ancien défenseur de l'Impact, Laurent Simon. C'était après l'entraînement d'hier au centre Nutrilait. Maintenant, on s'entretient avec le vice-président chez l'Impact de Montréal, Richard Lejean. Salut, Richard.
Bonjour, Jérémy.
Toujours bien heureux de retrouver le stade. Comment va la santé, premièrement? J'ai entendu que tu avais un petit peu
de semaine. Ça va mieux. C'est gentil.
Alors, tant mieux. On retrouve le stade Saputo. Toujours bien. C'est la fête à chaque année.
J'arrive de faire le tour du stade, Jérémy, oui. Puis il y a comme un sentiment de renaissance aujourd'hui. En plus, avec le soleil, il faut dire, on a tous l'impression qu'on en a été privé. Mais c'est fascinant de voir de plus en plus l'ambiance qu'il y a dans le stade, parce que les gens arrivent de plus en plus tôt.
Oui.
Et les portes ouvraient à 11h ce matin. Le match, quand même, à 13h, c'est tôt. Et dès midi 15, il y avait déjà beaucoup de monde, il y a beaucoup d'animation. On voit que les gens veulent... Ils veulent être ici pour sentir l'ambiance, pour s'embarquer dans le match. Alors, c'est excitant. Au stade Saputo, on est content d'être de retour, là, c'est sûr.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez été cette année choyé par les visiteurs pour le début de saison? Toronto FC pour le match d'ouverture. Ici, on a le LAFC, un club très populaire. Le retour de Laurent Simon qui ne nuit pas au spectacle. Dans quelques semaines, il y aura le Galaxy qui s'en vient. Disons qu'à ce niveau-là, ça tombe bien. Là.
Ça tombe bien, mais ça augmente le niveau de difficulté sur le terrain. Parce que je me souviens quand on s'est parlé juste avant le match contre Toronto, on disait qu'il y a déjà un enjeu sportif parce qu'on venait de perdre deux matchs. On jouait Toronto chez nous au Stade Olympique. Et là, c'est un peu la même situation. Hein. On en a perdu deux, on en a gagné deux. Et là, on vient d'en perdre deux, on revient chez nous. Alors, tout le monde est content de revenir à la maison. Puis oui, ça ajoute évidemment à l'enjeu d'aujourd'hui, là, que ce soit LAFC qui, en plus, un bon début de saison. Là. Ça, oui, c'est remarquable pour une équipe d'expansion. Là, on dirait que c'est la nouvelle mode dans le sport, là. Les équipes d'expansion qui connaissent du succès, en tout cas dans l'Ouest. Et alors oui, ça ajoute au drame, là, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'enjeu. D'abord et avant tout, je vous parlais de l'excitation des fans, mais les fans sont excités parce qu'ils savent qu'ils vont assister à un match où déjà il y a quelque chose qui se passe.
Écoute, je sais que le début de saison, vous le calculez, vous regardez toutes les possibilités, comment on peut jouer le moins de nombre de matchs au stade, sans venir au stade Saputo le plus tôt possible, mais...
C'est pas simple.
Mais vous êtes tombé pile. Aujourd'hui, c'est la première vraie journée de printemps. Et le stade ouvre ses portes. Disons que ça
absolument.
Ça tombe bien.
Puis, je vous dirais chapeau à notre président parce que l'année dernière, quand on a décidé, parce qu'on doit décider ça très tôt,
ben c'est ça.
Au mois d'août quasiment précédent, qu'on doit décider à quel moment on veut jouer le premier match. Et je pense que notre président a eu une intuition parce qu'il souhaitait qu'on joue un peu plus tard que, disons, la fin de semaine du 13 ou 14 avril. Et je vais vous dire, si on avait joué la fin de semaine dernière ici, là, ça aurait été pénible.
Il y a des contacts avec la fameuse marmotte.
Je ne sais pas, mais parce que c'est quasiment la première fois là, qu'on joue un petit peu plus tard, puis ça nous a bien servi. Mais c'est un enjeu, parce que ça fait aussi en même temps qu'on, vous le savez, qu'on a dû jouer 5 des 6 premiers matchs sur la route. Mais ça, il y a des avis différents selon à quel entraîneur vous parlez.
Mais par rapport à ça, Richard, est-ce que c'est pas une réflexion que vous avez justement par rapport à peut-être des aménagements futurs du stade, un terrain chauffant, des choses comme ça, qui pourraient faciliter la tenue de match plus tôt dans la saison?
À chaque année, on se repose la question. À chaque année, puis et la Ligue aussi, hein, parce que fut un temps où la Ligue commençait un petit peu plus tard. Là, ça commence le 4 mars, ça va jusqu'en décembre. Je pense qu'il y en a plusieurs qui souhaiteraient que le calendrier soit encore plus compressé. Ouais. Mais c'est pas simple à cause de toutes les implications sur le plan international. Alors, nous, oui, on le regarde, mais quand vous parlez de chauffer, le problème, c'est qu'il faudrait chauffer bien des affaires.
Ah oui,
exactement.
Il faudrait chauffer non seulement le terrain, le gazon, gradins, parce que souvent, c'est pas nécessairement le gazon qui peut être en difficulté, dépendant à quel moment. Évidemment, au mois de mars, on pourrait pas. Mais vous avez vu... pour ne pas les nommer, là, Toronto, qui ont un terrain chauffé.
Ouais.
Et ça a été difficile pour le terrain.
Pas parfait. Là, non, non.
C'est difficile. Hein? Puis à un moment donné, il y a un enjeu là-dessus aussi du côté de la sécurité des joueurs. Et l'autre affaire, quand je parle de faudrait chauffer beaucoup, c'est que, à un moment donné, c'est le climat aussi.
Pour les
dans les gradins. Nous, je dois vous avouer que nos sièges ici, ils n'ont pas été conçus là, pour qu'on s'assoie dessus au mois de mars. Ouais.
Richard, quand je regarde les assistances, c'est sûr que vous avez joué seulement un match local là, qui a eu quand même plus de 26 000 personnes. C'était au Stade Olympique. Vous vous chiffrez dans la moyenne au 5e rang de la MLS. Il y a certains de vos certaines autres villes là, de vos partenaires qui ont beaucoup souffert de la météo en début de saison. On regarde ça ici par exemple DC United, oui. Le Crew de Columbus, les Rapids de Colorado, Dallas. Il y a plusieurs villes qui ont eu de la difficulté à attirer des partisans en début de saison à cause de la météo.
Puis
c'est la réflexion par rapport à ça?
Là-dessus, pour en avoir parlé avec d'autres équipes de la Ligue, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un certain moment, la Ligue avait considéré prendre le calendrier européen. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Ben,
on était jetés à terre par ça. Et je me souviens à ce moment-là, au tout début, d'en avoir parlé avec les gens de Houston. Là, je me disais, Houston, s'il y en a un qui serait peut-être d'accord avec ça, c'est eux autres. Non.
Même eux, non, ça ne marchait pas.
Non, parce que pour eux aussi, pour beaucoup d'endroits aux États-Unis, le soccer, ça reste un sport qui est encore considéré comme un sport estival. Donc, eux, de commencer, de jouer durant l'hiver, ça n'avait aucun sens, mais pour beaucoup de villes, de commencer tôt en mars, c'est trop tôt. D'ailleurs, à un moment donné, la Ligue s'est sentie obligée d'arriver avec un slogan, le « March to Soccer », parce qu'on a de la difficulté à faire comprendre aux gens que le mois de mars est synonyme de soccer.
Ben, écoute, personnellement, là, moi, j'ajouterais 4 matchs en milieu de semaine dans l'année, quitte à occasionnellement ne pas avoir toujours les meilleurs sur le terrain, mais de commencer peut-être un peu plus tard,
Ou peut-être réduire un peu le nombre de matchs, Jérémy. Parce que là, avec les expansions aussi, ça va devenir de plus en plus compliqué. Hein. Quand il va y avoir 28 équipes, là, les mathématiques sont pas simples là, pour savoir combien de matchs on va jouer. Là.
Écoute, Richard, je sais que c'est pas nécessairement dans ton domaine, dans tes responsabilités, mais on aimerait avoir peut-être un commentaire de ta part par rapport à l'information d'Arcadio Marcuzzi sur l'impact qui aurait de l'intérêt pour Fernando Torres. Mes informateurs me disent que Nick était bel et bien en Espagne. campagne cette semaine.
Mais pas pour ça.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sans non, tout ben, nous écoutez, dévoiler?
Non, c'est ça. Puis les rumeurs, on comprend ça. Puis normalement, c'est un... Plus il y a de rumeurs, plus c'est un bon signe pour une organisation, parce que ça veut dire qu'on fait parler de nous. Mais il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Celle-là est dans la catégorie des moins bonnes.
Bon, alors on oublie ça.
Voilà.
OK, parfait. Merci Richard. On va te souhaiter
plaisir.
Une bonne journée.
Bon match.
Et très apprécié, on va souhaiter une victoire.
Merci.
Merci, merci beaucoup. Petite pause en direct du Stade Saputo. Vous écoutez l'émission d'avant-match du soccer de l'Impact de Montréal. Dans quelques instants, je vous propose la conversation entre Mario Langlois et Vincent Destouches. Conversation qui a eu lieu aux amateurs de sport hier soir. Nous voilà de retour au Stade de Saputo. L'Impact de Montréal qui reçoit la visite du LAFC cet après-midi. Le match va débuter dans une vingtaine de minutes. Sans plus tarder, voici la conversation entre Mario Langlois et Vincent Destouches hier aux amateurs de sport concernant justement le match d'aujourd'hui.
Vincent Destouches qui est avec nous.
Salut Mario.
Ben, une belle occasion de te poser la question par rapport à Laurent Simon. Là, avec le début de saison qu'on connaît, qu'on le voit connaître également du côté de Los Angeles, avec le recul maintenant, est-ce que tu penses que c'était une bonne ou une pas si bonne décision de le laisser aller du côté de l'Impact?
Mais le problème, je te dirais Mario, c'est que la question elle se pose même pas dans ces termes parce que tu sais, la décision, et on en a beaucoup parlé, c'est vrai qu'il n'était pas le plus apprécié nécessairement de la direction de l'Impact, mais la décision telle que, en tout cas c'est l'information qu'on a, la décision qui a été prise, c'est celle de Rémi Garde. Rémi Garde qui avait comme point axe principal de travail améliorer la défense, il regarde les cassettes des matchs, il regarde les DVD, et il dit, regarde moi Laurent Simon, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que c'est pas le type de défenseur que je veux dans mon équipe. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, c'est sûr que je l'aime, Laurent Simon, en tant que joueur. J'aime son caractère, j'aime ce qu'il représentait. Moi, j'aime son profil de défenseur relanceur. Mais regarde, si Rémi Garde, il a envie de construire son équipe et sa défense d'une autre manière, bah, c'est comme ça. Après, c'est sur la manière de faire que je pense qui a fait que ça accroche. Parce que je pense que Laurent Simon, si on lui avait expliqué calmement ça, il aurait pu le comprendre. Il aurait peut-être pas été d'accord, mais il aurait pu le comprendre. Mais voilà, c'est les règles des échanges, les règles qui diffèrent énormément de ce qui se passe en Europe et des transferts et de ce qu'il était habitué. Et voilà, ça a donné la situation qu'on connaît.
Sur le terrain maintenant, demain contre Los Angeles, je m'attends à une performance beaucoup plus dynamique de la part de l'Impact. Retour dans l'alignement de Tider, notamment là, le combo Tider-Piatti. À quoi tu t'attends comme performance?
Moi, je m'attends à un sursaut, à un réveil. Je pense que la défaite de la semaine dernière, et c'est ça le problème, je pense qu'elle a fait mal. Celle-là, elle a fait mal. Perdre 4-0 face aux Refs de la Nouvelle-Angleterre, c'est une chose, avec l'absence de Tider, l'exclusion du match de Tider et les circonstances. Je pense que il y avait tellement de choses dans ce match, l'absence de Piatti et compagnie, qui faisait qu'on arrivait à le mettre en arrière de nous, à se dire c'est une anecdote. Mais la semaine dernière, ils se sont fait déclasser. Et ils s'attendaient pas à ça. Alors, il faut se relever, il faut offrir un nouveau visage et surtout, il faut gagner cette rencontre. À domicile, il faut corriger cette situation, surtout c'est l'ouverture locale devant les partisans, il y a de l'énergie, il y a de l'attente, il faut le gagner. Alors, il y a peut-être une pression et il y a peut-être une équipe qui accuse un peu le coup, mais il y a surtout une équipe qui se doit de reprendre sa marche en avant au classement et au niveau de la situation des points.
À quoi faut-il s'attendre comme structure de jeu de la part de Rémi Garde? Est-ce qu'il ira avec 5 joueurs en milieu de terrain, 3 défenseurs, un 3-5-2 ou tu t'attends à une autre combinaison?
Écoute, moi jusqu'à hier matin, j'ai pas vu énormément de travail tactique à l'entraînement, donc j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers un changement. Je pense qu'on va garder la même structure, même si j'ai pas la réponse définitive à te donner. Mais si on voulait changer, je pense qu'on l'aurait travaillé plus ardemment cette semaine. Alors par contre, on l'a vu avec Rémi Garde, notamment contre Toronto, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc c'est pour ça que je me garde bien de te l'affirmer. Mais mon sentiment, c'est qu'on restera avec une défense à 3. Et donc probablement un duo Piatti-Vargas reconduit en haut de l'attaque, sauf que maintenant, il y a Tider, Silva, il est là, il a joué les 2 derniers matchs, donc je pense qu'il est prêt à débuter, peut-être dans un milieu à 3. Moi, le milieu Piet-Tider-Silva, c'est depuis quelques semaines, dans ce système, celui qui me paraît le plus intéressant, du moins le plus talentueux. Alors, est-ce qu'on va aller de l'avant avec ça? Eh bien, réponse demain aux alentours de midi.
Je posais la même question hier à Saphir Taider que j'avais posée à Rémi Garde, c'est-à-dire est-ce qu'il trouvait qu'il y avait un décalage entre l'impression, la perception qu'il avait du jeu de la MLS et la réalité à laquelle il fait face depuis qu'il est arrivé, et lui d'admettre que ben, ça peut toujours paraître plus simple à la télévision, mais qu'il trouvait que le niveau de jeu était élevé en Amérique et que c'était quand même difficile, c'était pas si facile que ça de se démarquer. Sans doute pas surpris d'entendre ce type de réponse, toi, Vincent?
Non, parce qu'ils disent tous ça. Et en même temps, je comprends les deux points de vue. Je comprends le fait qu'on puisse se dire ça va être facile, parce que c'est l'image qu'on peut avoir en Europe ou peut-être en Amérique du Sud, de se dire cette ligue, elle n'est pas encore au rendez-vous des très grandes ligues dans le monde. Donc, a priori, je devrais pouvoir me démarquer, moi, en tant que joueur ou joueur désigné qui arrive. Sauf qu'après, il y a les matchs. Il y a cette parité, il y a ce défi physique qui est une des caractéristiques principales de la MLS, et on se rend compte que c'est effectivement pas si facile, parce qu'en plus, c'est peut-être moins tactique, c'est peut-être moins structuré en tant que jeu, donc c'est dur, faut travailler, c'est tough. Et je pense que Taider a été pas mal depuis le début de l'année. Je pense qu'il a pas eu un très grand temps d'adaptation, mais un Rudy Camacho, et on s'en est parlé un petit peu plus tôt cette semaine, lui avait peut-être davantage cette attitude que, hey, ça va être peut-être un peu plus simple que ce que, ou ça va être un peu plus dur que ce que je m'attendais, et on l'a vu lors du dernier match. Alors, lui aussi, il va devoir s'ajuster demain contre le LAFC.
Merci beaucoup, Vincent.
Merci à vous aussi.
Alors voilà, Mario Langlois et Vincent Destouches, Arcadio Marcuzzi et Jérémy Filosa avec vous au Stade Saputo. Arcadio, on a entendu Vincent et Mario parler de Rudy Camacho, l'importance de ce joueur. Aujourd'hui, Rod Fanny ne sera pas du 11, n'est pas habillé non plus. Il a subi cette blessure la semaine dernière. Il faut absolument que Rudy Camacho connaisse un bon match aujourd'hui. On espère le voir trouver une certaine zone de confort aujourd'hui.
Oui, clairement. Ben lui, il est encore en période d'adaptation là, à son nouvel environnement, c'est certain. Mais il a été très critique envers lui-même suite au match à New York. Là, il n'était pas du tout satisfait, évidemment, avec la performance collective, mais aussi avec sa performance personnelle. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a eu introspection de son côté. Et oui, on est en droit d'espérer qu'il connaisse une bonne rencontre, mais l'impact de Montréal face à cette attaque redoutable du LAFC, ça devra de connaître un bon match au niveau collectif défensivement, défendre en bloc, être intelligent dans les actions défensives et dans la transition pour éviter justement de tomber dans le piège de Carlos Vela et de Diego Rossi, là, qui ont terrassé les défenses adverses depuis le début de la saison, il faut le dire.
Ben, justement, parlons de ces deux joueurs qui ont 8 buts jusqu'à maintenant, 4 chacun. Ce sont les deux joueurs à surveiller. Disons que dans le cas de Vela, on le savait. Dans le cas de Rossi, c'est un peu, je pense, une surprise de voir qu'il a déjà 4 buts. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben écoute, Rossi, moi je le connaissais déjà. Lorsqu'il a été signé par le LAFC, il avait 19 ans. Là, c'est un jeune Uruguayen. Il vient d'avoir 20 ans. Moi je le connaissais et c'est un joueur qui est formidable. Je suis nullement surpris des succès qu'il est en train de connaître. Et c'est le type de signature là qu'il va falloir prioriser. On le dit depuis quelques années, là, en MLS, les jeunes Sud-Américains, c'est des gars que tu obtiens à des prix très raisonnables pour le talent, le retour que tu vas avoir et potentiellement le prix de revente que tu pourras avoir lorsqu'ils atteignent un niveau où tu peux les vendre à un club européen. Donc, j'ai très hâte de le voir aujourd'hui, ce jeune Diego Rossi, ici au Stade Saputo.
Merci beaucoup, Arcadio. On va s'arrêter le temps d'une courte pause, étant donné que là, sur le terrain, on a placé un gros maillot de l'Impact de Montréal. Il y aura les hymnes nationaux dans quelques instants. Donc, petite pause, le bulletin de nouvelles et ensuite de ça, les alignements partants et le début du match entre l'Impact de Montréal et le LAFC. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. On vous revient dans quelques instants.